have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Gros plan sur la crise anglophone au Cameroun. Les États-Unis accusent le gouvernement et les séparatistes d'exaction. Comment comprendre cette condamnation? Quel pourrait être son impact sur les belligérants? L'administration américaine peut-elle influencer cette crise? Et quels sont les intérêts de Washington au Cameroun? On en discute dans cette émission. Pour participer en direct, appelez le 001-202-205-2633. Et pour les auditeurs qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler.
Il y a plus d'hommes noirs en prison qu'à l'université. On n'a pas suffisamment d'emplois, surtout pour les jeunes noirs.
Notre invité, c'est l'ambassadeur Herman Cohen. Vous êtes notamment ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Merci d'être des nôtres ce soir.
Heureux d'être parmi vous.
Alors, l'ambassadeur américain au Cameroun, Peter Henry Ballerin, accuse le gouvernement camerounais et les séparatistes de la minorité anglophone d'exaction dans le conflit qui les oppose depuis des mois. Herman Cohen, comment comprendre ces déclarations? S'agit-il d'une simple condamnation, de la rhétorique diplomatique, ou alors est-ce que c'est le signe d'un réel engagement de Washington sur ce dossier?
Oh, c'est un commencement jusqu'à la déclaration de son Excellence l'ambassadeur Ballerin. L'Amérique n'a pas dit grand-chose sur ce sujet. Donc, Washington commence à s'inquiéter sur la situation où la violence est en train d'augmenter et les deux côtés deviennent de plus en plus féroces.
Alors pourquoi ce silence pendant si longtemps?
On croyait que notre ami, le gouvernement de Cameroun, pouvait organiser une solution avec des négociations, avec des compromis, mais maintenant, il paraît que c'est vraiment une guerre qui a éclaté.
Oui, c'est ça. Certains observateurs parlent de conflits de basse intensité, mais visiblement, les choses sont en train de changer.
Oui, oui. Et il y a beaucoup de gens, certains groupes Cameroun anglophones, qui depuis longtemps ont se plaignaient de discrimination contre les anglophones, qu'ils étaient un statut minoritaire et partagé par les ressources du pays. Et ils demandaient, il y a beaucoup de solutions pour la séparation, retour au fédéralisme, etc. Mais beaucoup de gens au Cameroun anglophone sont vraiment fâchés.
Alors, côté gouvernement, l'ambassadeur dénonce des assassinats ciblés, des détentions sans accès à un soutien juridique à la famille ou à la Croix-Rouge, des incendies et pillages de villages. De la part d'un ambassadeur, ce sont des mots très forts, non?
Bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il y a un grand problème. Il y a un grand problème et il faut que les deux côtés cherchent une solution. Et l'ambassadeur a dit, avant que ça devienne une vraie guerre civile, il faut commencer les négociations. Et à mon avis, c'est le gouvernement Yaoundé qui est le plus dur.
D'après vous, comment est-ce que les autorités camerounaises vont réagir?
Oui, c'est pas tout à fait normal pour l'ambassadeur sur place de critiquer comme ça. Normalement, c'est Washington qui doit parler. Mais je connais M. Ballerin, c'est un ami. Et lui, qui est francophone, lui comprend la situation et il a dit « Je suis obligé de parler, je peux pas me retenir parce que la situation devient grave ».
Vous pensez qu'il a agi de façon personnelle, sans forcément avoir été, avoir reçu un ordre venant de Washington?
Non, je suis sûr que Le département des affaires africaines à Washington sont tout à fait derrière lui.
Mais enfin, qu'il s'agisse hein, de Washington ou de l'ambassadeur lui-même, à quoi peut servir ce type de condamnation? Est-ce que ça peut pousser les autorités à desserrer l'étau sur les séparatistes?
Je crois que ce que l'ambassadeur cherche, c'est le commencement de négociations et la recherche d'une solution. Enfin, c'est pas nouveau ce problème. Ça date depuis 1972, quand Yaoundé a fait un référendum où les francophones sont en majorité et ils ont voté pour abolir la fédération qui a été créée par les Nations Unies en 1960. C'était un référendum illégitime. Ça a pris une souveraineté, ils ont arraché la souveraineté des pays du peuple anglophone dans un système qui marchait très bien jusqu'en 1972. Donc depuis ce temps-là, ça a détérioré avec la discrimination et les jeunes de Cameroun anglophone en ont marre maintenant. Ils sont furieux parce qu'ils ne sont pas des citoyens 100% à leur avis.
Mais pourquoi, puisque vous le dites vous-même, hein, c'est un problème qui date, pourquoi aujourd'hui? Quel a été le catalyseur?
Je sais que depuis 15 ans maintenant, j'ai des gens qui viennent me voir ici à Washington, des anglophones, des avocats, des intellectuels qui disent il faut que la communauté internationale fasse quelque chose. Parce que nous sommes... Ils ont pris notre indépendance qui a été donnée par les Nations Unies dans un système fédéral. Et c'est pas bon et nous en souffrons beaucoup. Ça fait longtemps donc que c'est pas une surprise que la violence a éclaté. Mm-hmm. Parce que le gouvernement Yaoundé n'a rien fait pour corriger cette situation.
Ok. Alors, on va prendre un auditeur. Il s'agit de Diallo Thierno Oumar Diallo, qui est à Conakry, en Guinée. Bonsoir.
Oui, bonsoir, Morgane, et bonsoir à votre invité du jour, et l'ensemble des auditeurs et des auditeurs de VOA.
Alors, est-ce que vous avez un commentaire ou peut-être une question à poser à notre expert?
Bon, je... pas de questions, mais je voulais juste commenter l'actualité. Je salue la réaction des États-Unis parce que il y a trop de risques, parce que il y a des risques qu'on n'imaginait pas il y a des années entre les anglophones et l'État du Cameroun. C'est du pur nettoyage qui est en préparation. Ils sont en train même de faire cette personne rejetée, faire incendie des villages entiers, on les pourchasse, on les pousse, leurs élites en exil. C'est quelque chose qui est vraiment très dangereux. L'État du Cameroun a failli. Il devrait tout simplement s'engager des négociations avec les séparatistes au lieu d'engager des forces. C'est quelque chose qui est très dangereux. Mais les réactions des grandes puissances sont venues en retard parce que l'Union africaine n'existe presque pas. C'est pour cela que le gouvernement de M. Biya se permet de faire du même parfois face aux citoyens non armés. Il déploie le contingent militaire à aller faire des massacres de ces anglophones. C'est quelque chose d'inacceptable au XXIe siècle, que les grandes puissances étaient face à cette situation. Je demande aux grandes puissances comme l'Angleterre, les États-Unis et les Nations Unies aussi de réagir, d'interpréter l'autorité camerounaise face aux graves violations des droits de l'homme qui est dans ces zones, qui sont en train de faire dans ces zones d'anglophones. Nous aimerions aussi que les activistes des droits de l'homme se préparent pour porter des plaintes contre l'État du Cameroun pour crimes contre l'humanité. J'interpelle Mme Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, de hausser le ton, parce que c'est grâce à elle aujourd'hui que beaucoup de dirigeants africains ont peur de faire des massacres. Elle n'a qu'à hausser le ton pour condamner et aussi de lancer des poursuites à l'endroit des autorités camerounaises. C'est quelque chose qui va apaiser les tensions pour que pour diminuer les victimes, pour que les négociations puissent reprendre avec les séparatistes. La force n'est pas la solution parce que aura beaucoup de innocents victimes. C'est quelque chose d'inacceptable. Merci, merci à votre invitation.
Merci beaucoup, Diallo Thiernou de Conakry en Guinée. Herman Cohen, est-ce que ces accusations venant de Washington pourraient crisper les relations entre le Cameroun et les États-Unis?
C'est possible parce que le gouvernement du Cameroun peut dire que c'est une affaire intérieure. Pourquoi l'Amérique se mêle de cette chose intérieure? Mais les États-Unis ont un grand sentiment pour les droits de l'homme. Et il y a des membres de notre Parlement qui disent qu'il faut parler quand il y a des violations des droits de l'homme, quand il y a des répressions des citoyens, des choses comme ça. Et aussi dans le cas de Cameroun, vous savez, la Cameroun anglophone partage une frontière avec le Nigeria. Il y a des gens du même groupe ethnique sur l'autre côté. Et ces gens aident les Camerounais anglophones dans leur lutte. Le gouvernement du Nigeria a dit ce n'est pas notre affaire. Et s'il y a des gens qui traversent la frontière, ils seront arrêtés et renvoyés au Cameroun. Nous ne sommes pas avec les Camerounais anglophones. Mais il y a des citoyens au Nigeria qui aident. Donc, dès qu'il y a une participation internationale comme ça, ça devient très, très dangereux.
Alors, vous parlez du soutien aux indépendantistes, hein, et justement, Yaoundé pointe du doigt l'Amérique comme étant une base arrière pour ces indépendantistes. Qu'en dites-vous?
Je ne crois pas. Bien sûr, il y a des Camerounais anglophones qui sont dans la diaspora ici. Et ils sont tous solidaires avec les séparatistes, mais l'Amérique ne donne pas d'aide quoi que ce soit aux séparatistes. Et les déclarations de l'ambassadeur, c'est la première fois à ma connaissance que l'Amérique a dit quelque chose.
Alors, prenons ce commentaire Facebook. Hein. Il s'agit de Hosanna Théadoum Djimrangar du Tchad. Il dit « Les États-Unis ont un poids politique mondial, donc la condamnation peut changer la situation. Trump et son administration doivent œuvrer pour que les tueries cessent, puisque le Cameroun a un certain nombre de partenariats avec les États-Unis. Donc, est-ce que, d'après vous, hein, les États-Unis ont les moyens de faire fléchir Paul Biya ?»
Oh, je crois que pour dire qu'ils ont des moyens, c'est un peu fort. Non, ils ne vont pas utiliser la force militaire, économique contre Paul Biya, mais ils vont augmenter les déclarations et peut-être ils vont convoquer le Conseil de sécurité, aussi le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et plus important, il faut parler avec la France et l'Angleterre, les deux anciennes colonialistes du Cameroun, pour faire pression. L'Amérique ne doit pas faire ça tout seul.
Est-ce que vous pensez que, justement, ces autres pays vont emboîter le pas?
J'espère. Mais bien sûr, il y a le pétrole appartient à Total. Et je ne connais pas les intérêts anglophones d'Angleterre au Cameroun, mais ils sont beaucoup plus hésitants, à mon avis, de se mêler de ces affaires intérieures. Mais ça commence à être très grand et très violent, et je crois qu'une intervention diplomatique, économique, politique commence à être nécessaire.
Mais les États-Unis, par exemple, sont impliqués dans la lutte contre les groupes terroristes. Ça concerne bien évidemment le Cameroun. Est-ce que ça pourrait peser dans la balance?
Non, ça c'est une autre paire de manches. La lutte contre le Boko Haram dans le nord-est du Cameroun, dans la région de la Tchad, ça nous sommes totalement solidaire avec le gouvernement du Cameroun pour lutter contre ça, avec le Nigeria et le Tchad. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun anglophone.
Alors, Peter Henry Barlerin, l'ambassadeur, donc, n'a pas épargné les séparatistes anglophones non plus, hein, puisqu'il les accuse d'avoir tué des gendarmes, enlevé des fonctionnaires et incendié des écoles. Ces dénonciations peuvent-elles entraîner un changement de comportement des séparatistes?
J'espère, parce que ils ont la sympathie du monde extérieur en général, les anglophones, à cause de discrimination contre à cause de ce référendum qui est illégitime. Mais dès qu'ils commencent à tuer des gendarmes et tuer des civils, ils commencent à perdre la sympathie. Ils seront considérés comme des terroristes. Donc c'est très important pour eux de rester dans le domaine de déclaration, de faire des démarches, de faire des relations publiques partout dans le monde et de laisser tomber la violence.
Alors, on va prendre notre auditeur qui est au Congo. Il s'agit d'Alphonse Boaki. Bonsoir, Alphonse.
Bonsoir, Morgane.
Alors, vous avez laissé beaucoup de commentaires sur Facebook, hein, comme d'habitude. On vous remercie. Et l'un d'entre eux, hein, c'était, vous dressiez vous faisiez quand même un pont entre Washington et l'implication de Boko Haram dans l'affaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce commentaire?
Bon, je voudrais plutôt poser une question à l'ambassadeur Herman Cohen concernant cet aspect-là dont vous venez de faire allusion. Vous m'entendez?
Oui, bien sûr.
Alors, je voudrais demander si, comme Boko Haram mène déjà des incursions au Cameroun, mais contraintes, ces incursions donc sont contraintes par les services de sécurité, par l'armée camerounaise. Est-ce qu'il n'y a, ce n'est pas, Washington ne craint pas le risque d'implication de Boko Haram ou d'autres groupes djihadistes aux séparatistes pour pouvoir lutter contre les dictats, la tyrannie ou la domination des francophones, des Yaoundé ou des Paul Biya? Ce n'est pas possible que ça arrive à ce niveau. Voilà. Washington ne crée pas cela.
Est-ce que, Herman Cohen, qu'en dites-vous? Est-ce que les Boko Haram pourraient profiter de tout cela et se mettre du côté des séparatistes?
Non, je ne crois pas, parce que les séparatistes sont 100% chrétiens et ils sont à l'autre côté du Cameroun, très loin du lac Tchad. Et le Boko Haram, c'est une affaire entre une population musulmane. Donc, le Cameroun, c'est un très grand pays et je ne vois pas un lien pour développer entre Boko Haram et les séparatistes. Absolument pas.
Alors, le dialogue est définitivement rompu, estime l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Cohen?
Oui, complètement d'accord. Au lieu d'un dialogue, le gouvernement a décidé pour la répression. Vous êtes séparatiste, on va vous mettre en prison. Point fini. Et avec cette politique, les séparatistes ont dit, bon, nous n'avons pas de choix. Nous avons opté pour la violence. Nous avons tué des gendarmes, n'importe quel fonctionnaire que nous trouvons. Donc, c'est pourquoi l'ambassadeur a commencé à parler. Parce que ça peut continuer à descendre vers une guerre civile et il veut éviter ça.
Alors, dans ce contexte, hein, qu'est-ce qui pourrait résoudre le conflit?
Je crois que le gouvernement des Yaoundé doit prendre le premier pas pour appeler les dirigeants, surtout les gens qui ne sont pas nécessairement séparatistes, mais les anglophones qui demandent égalité et qui demandent peut-être un retour au fédéralisme. Ce n'est pas la séparation, le fédéralisme, c'est le retour à la solution que les Nations Unies ont fait en 1960. Donc, ces gens-là, les non-violents, peuvent parler avec le gouvernement de président Biya.
Et quel pourrait être le rôle des États-Unis dans tout ça?
Les États-Unis peuvent faciliter, peuvent être médiateurs, comme Moi, j'ai fait quand j'ai été sous-secrétaire d'État, quand j'ai fait en Éthiopie entre l'Érythréen et le gouvernement, comme j'ai fait en Mozambique entre le Frelimo et le gouvernement, comme j'ai fait en Angola entre le UNITA et le gouvernement américain, peut faire la même chose à Yaoundé. Si Yaoundé accepte qu'ils ont un vrai problème et que l'aide extérieure peut être utile. Jusqu'au maintenant, je crois qu'ils ne sont pas en train de reconnaître ce besoin.
Alors, est-ce qu'on peut parler d'ingérence ? Ou au moins, est-ce que vous pouvez comprendre que certains perçoivent ce type d'intervention comme de l'ingérence ?
Oui, bien sûr, et c'est l'ingérence. Bien sûr, c'est l'ingérence. Et de temps en temps, l'ingérence est nécessaire. Quand ils sont au bord d'une guerre civile, et ni le gouvernement et ni les séparatistes ont l'air de vouloir faire des compromis, quelqu'un doit faire l'ingérence, n'est-ce pas? On peut pas rester tranquille en dehors. Et bien sûr, l'Union africaine a décidé il y a 20 ans déjà qu'il faut l'ingérence quand il y a un problème sans solution. Et ça m'étonne que l'Union africaine n'ait pas encore intervenu.
Alors sur Facebook, nos auditeurs dénoncent la politique du deux poids, deux mesures. Par exemple, Sankara de Sankara du Burkina Faso dit ceci. Vous n'avez pas vu les crimes commis par Israël sous votre nez? C'est ce qui se passe au Cameroun que vous voyez? Qu'en dites-vous, Herman Cohen?
Oh, c'est une très bonne question. L'Amérique a beaucoup critiqué l'Israël. Pour prendre la terre des Palestiniens. Moi, j'ai travaillé pour George Bush père et il était très critique pour l'Israël, pour ce qu'on dit en anglais, les settlements, les pionniers qui ont pris la terre des Palestiniens. Donc, nous ne sommes pas sans critique. Pour les derniers événements au Gaza, Madame Nikki Haley a dit que la force utilisée par Israël était trop grande. À mon avis, elle a fait une erreur. Je crois que c'était trop grande. Mais il y a des critiques des Israéliens. Nous ne sommes pas 100% avec eux tout le temps.
Alors, dans la même veine, toujours assez critique vis-à-vis des États-Unis, donc on a Salifou Koala qui dit est-ce que ce que ils font en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Israël, en Palestine, c'est quoi? En tout cas, on peut retenir Afghanistan, Syrie et Irak.
Ce que l'Amérique fait dans ces pays.
C'est-à-dire qu'il compare, il dit voilà le Cameroun qu'on accuse d'exactions, mais il y a aussi des exactions qui sont menées par les États-Unis dans d'autres coins du monde.
Bien sûr, est-ce qu'on peut parler d'hypocrisie? Chaque situation est différente ça n'aide pas la recherche pour une solution de comparer la politique dans les différents pays. Chaque situation est différente.
L'ambassadeur a profité de sa rencontre, donc c'est sur un autre sujet, avec le président Biya, pour lui demander de réfléchir à son futur. À l'approche de l'élection présidentielle, est-ce que c'était une façon de lui suggérer de renoncer à un nouveau mandat?
C'est possible, parce que le président Biya est au pouvoir déjà maintenant pour 40 ans, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Il a dépassé 85 ans, et je crois que c'est peut-être le moment de prendre sa retraite.
De façon très rapide et très générale, quelles sont les relations entre Biya et les États-Unis? Sont-elles bonnes?
Oh, depuis longtemps, les relations sont bonnes. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de coopérer contre Boko Haram. Les investisseurs américains étaient toujours le bienvenu au Cameroun. J'ai aidé une société américaine pour une question de gisements de fer dans l'est du Cameroun. Les relations entre le président Biya et son administration et les États-Unis.
Herman Cohen, je suis désolée, je dois vous couper. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup pour votre analyse. Merci à tous les auditeurs. Cheikh Thérault à la production, Morgane Guiriec au micro. À bientôt.